Bonjour à tous et bienvenue dans Culturellement Vôtre, vous êtes avec Annick. Aujourd'hui, nous allons parler de la chapelle royale de Dreux. Et pour en parler, j'ai avec moi Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour. Alors, je me suis permise de t'inviter dans Culturellement Vôtre parce que je crois savoir que tu apprécies beaucoup la ville de Dreux et la chapelle royale.
Ayant une partie de ma famille originaire de cette région, oui, effectivement, ça facilite les choses. Mais je me permettrai quand même dans cette émission de jouer le candide et de poser quelques questions.
Ça marche. Est-ce que tu savais que l'histoire de la chapelle royale commence à Rambouillet?
Eh bien non.
Le duc de Penthièvre. Il est connu à Rambouillet, donc le duc de Penthièvre, petit-fils de Louis XIV par la branche de la Bâtardise, vend le château de Rambouillet en 1783 à Louis XVI et va s'installer à Dreux, dans la petite collégiale Saint-Étienne du château de Dreux, donc dans les hauteurs de Dreux. Petite collégiale qui ne ressemblait pas du tout au bâtiment que l'on voit aujourd'hui. Et quand il va s'installer là-bas, il va partir, j'ai envie de dire, avec ses morts sous le coude. C'est-à-dire que il part avec les cercueils de son père, le comte de Toulouse, de sa mère, donc la comtesse de Toulouse, Marie-Victoire Sophie de Noailles, sa femme, leur fils, le prince de Lamballe, et cinq autres de leurs enfants. Le prince de Lamballe, tout le monde connaît son épouse, hein, la princesse de Lamballe.
Qui a fini au bout d'une pique pendant la Révolution.
Exactement, on en reparlera si tu veux. Donc il va là-bas, et puis il ne fait rien lui. Hein, et l'histoire se poursuit, parce que en 1793, il va décéder dans son petit château de Bizide de sa belle mort. Mais il avait une fille, Louise-Marie Adélaïde de Bourbon-Penthièvre. Et c'est elle qui va faire de la chapelle royale ce qu'on connaît aujourd'hui.
En fait, la mère de Louis-Philippe.
C'est la mère de Louis-Philippe, en effet. Alors, elle est emprisonnée à la prison du Luxembourg. Et en 1797, eh bien, elle est expulsée de France. Et son époux, en fait, c'est Louis-Philippe, mais tout le monde le connaît sous Philippe Égalité.
C'est la mère de Louis-Philippe. Et la femme, donc, de Philippe Égalité.
Exactement. Donc, quand elle est expulsée de France, quand elle va revenir sous Napoléon, elle va récupérer Dreux et elle va récupérer aussi la maison qui appartenait donc au duc de Penthièvre, le château de la Ferté-Vidame.
Notons juste en parenthèse que je referme bien vite, Philippe Égalité, c'était des drôles de relations familiales parce que c'était le cousin de Louis XVI et Il a voté la mort de son cousin.
Oui, oui.
Ça a mis des relations assez tendues dans la famille pour plusieurs générations.
Et moi, ce que je trouve amusant dans cette histoire, c'est que Louise-Marie Adélaïde, c'est la branche bâtarde, elle s'est quand même par mariage recollée à la branche directe, à la branche légitime.
Revenons à Dreux.
Alors du coup, elle va demander à l'architecte Cramaille de réaliser donc la chapelle qu'on connaît aujourd'hui, même si son fils a fait quelques travaux d'agrandissement. Sauf que pendant la Révolution, pendant qu'elle n'était pas là, il s'est passé des choses. Les cercueils de plomb, le plomb a été récupéré, les corps ont été mis dans une fosse commune, le tout a été vendu comme bien national à un marchand de bois chartrain qui a démoli le toit de l'église, par exemple. Et puis, par la suite, ça a été revendu à un maçon de Dreux qui a vécu jusqu'en 1816. Deux ans auparavant, la princesse Douairière, donc, demande à Cramaille de faire les travaux et de construire sur l'emplacement actuel de l'ancienne église, la chapelle qu'on connaît aujourd'hui, et ça va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Denis des Orléans.
Tout ça pour dire que la famille royale était à la basilique de Saint-Denis, et à l'époque, à la Révolution, pareil, les cercueils ont été sortis, et c'était une habitude de démolir notamment les églises pour récupérer les pierres.
Tout ce qui est précieux, donc le plomb, tous les bâtiments où il y avait des choses précieuses, et donc le bois, la pierre qu'on pouvait, oui.
D'accord.
Alors c'était une petite collégiale parce que l'église de Dreux, elle, a subi aussi quelques petits dégâts pendant la Révolution.
Bon, donc nous sommes en 1816, le chantier débute pour reconstruire la chapelle que nous connaissons aujourd'hui.
Voilà, donc on a un style gothique flamboyant, on a un peu de Renaissance d'abord, et puis c'est son fils, donc Louis-Philippe d'Orléans, le roi des Français, non pas le roi de France, le roi des Français, qui va poursuivre et qui va agrandir en fait le bâtiment, commencé par sa mère, où on a vraiment ici un style gothique flamboyant.
Les travaux commencent à un endroit très particulier, puisque c'est la fosse commune, c'est ça?
C'est ça, là où ont été mis à la Révolution les corps en fait de ses parents. Alors, je parle des parents de la princesse de Douairière.
Et alors à l'inverse, si certains matériaux ont été revendus par le maçon François Bellois de Dreux, qui avait tout démoli, cette fois-ci, le processus il est inverse. Et on va chercher des matériaux dans d'autres communes.
Dans d'autres communes, on a cherché dans les ruines du château de la Ferté-Vidame. Cramaille a également pris des pierres de l'ancienne abbaye bénédictine de Coulon. Alors voilà. Coulon, c'est une petite ville à côté de Nogent-le-Roi.
Il reste plus que la tour maintenant.
Oui, exactement. Et tout ça, en fait, ça va se retrouver dans la chapelle.
Et pourquoi, pour reconstruire cette chapelle, c'est un objectif de la part de Louise-Marie Adélaïde?
Oui, elle voulait honorer sa famille, honorer ses parents, ses frères et sœurs, et puis donner une sépulture
royale.
Royale.
Voilà. Effectivement, se mettre à égalité avec la famille royale qui est à Saint-Denis.
Voilà.
À partir de 1839, qu'est-ce qui se passe?
À partir de 39, eh bien, le style néo-gothique de la chapelle va prendre vraiment de l'ampleur. La chapelle va être agrandie par son fils, Louis-Philippe.
Bon, voilà. On fait une pause et puis on se retrouve dans quelques minutes.
Ok, c'est parti.
Voilà.
Nous voilà de retour pour parler de la chapelle royale de Dreux. Nous allons parler maintenant des intérieurs. Alors, les intérieurs de la chapelle royale, il y a énormément de vitraux.
Par contre, je voulais dire qu'elle est visible de loin, cette chapelle royale, de la couleur de sa pierre.
Alors, la pierre blanche, bien sûr. Pierre blanche qui se voit de très loin, placée sur les hauteurs avec son dôme magnifique. Et puis, c'est monté en néo-gothique puisque nous sommes au 19e siècle. Absolument magnifique. On ne peut pas rater la chapelle quand on arrive sur Dreux. C'est la première chose que l'on voit. Hein. Il suffit juste de lever un peu les yeux. On a donc le mur de rempart, un bout de l'ancien château et la chapelle royale qui trône en plein centre.
Tu nous disais qu'il y avait des vitraux magnifiques.
Oui, les vitraux ont été réalisés par la manufacture de Sèvres, d'après les cartons de plusieurs artistes, hein, notamment Ingres.
Il avait un violon, lui, d'ailleurs.
Le violon de... Alors, du
par
coup,
Ingres.
Pour revenir par Ingres, qui, je ne sais pas s'il jouait du violon, mais en tout cas, pour revenir aux vitraux, il y a des vitraux qui ont été réalisés, je le disais, par la manufacture de Sèvres, où on va retrouver le fameux bleu de Sèvres, plusieurs dessins d'Ingres, et puis des pinacles gothiques réalisés par notre fameux Viollet-le-Duc.
C'est quoi un pinacle?
Quand tu vois un vitrail, ou un dessin, hein, peu importe, ou même une sculpture, tu as un saint, et au-dessus du saint, tu as une petite architecture qui est dessinée, et bien ça, ce sera le pinacle. À l'intérieur de la chapelle, on a une magnifique rotonde en vitrail avec des personnages saints, avec une petite flamme au-dessus de la tête. Pour la petite flamme, tu sais ce que ça représente?
Bien sûr. La Pentecôte.
La Pentecôte, bien sûr. Oui. Et ça a été réalisé également donc par Cramail, où le vitrail a été peint par Roussel, d'après les cartons de La Rivière. Donc ce sont de grands, grands personnages de l'époque.
Oubliés aujourd'hui,
mais pour le 19e siècle, vraiment de très grands personnages, en ce début du 19e siècle. Dans la chapelle de la Vierge, nous avons les différentes, en vitrail, les différentes étapes de la vie de Saint-Louis, avec le vitrail le plus connu de la vie de Saint-Louis, celui où il représente, où il va rendre la justice sous le chêne, bien sûr. Et puis la chapelle royale est bien sûr connue, ben, pour toutes les œuvres et tous les tombeaux de
les
la...
Les gisants, en fait.
Le gisant, c'est le personnage sculpté qu'on va poser sur le tombeau et de toute la famille Bourbon-Penthièvre, Orléans.
Orléans, et aujourd'hui encore, il y a...
Comtes de Paris.
Les Comtes de Paris, hein.
Oui, voilà. Alors le dernier Comte de Paris est décédé, c'était en 2019, et il repose dans la chapelle royale.
Tout à fait.
Avec ses ancêtres. Il y a plus de 60 gisants, c'est extraordinaire.
C'est un grand succès au niveau touristique et historique.
Et historique. Alors, il n'est ouvert au public qu'à la belle saison. Là, il est fermé au public individuel et il va réouvrir au printemps et on peut se promener dans le jardin, visiter les intérieurs. C'est une histoire très, très riche. J'ai même une petite anecdote, mais que je réserve pour la fin de l'émission.
Oui, revenons-en au gisant avant de venir à une anecdote historique aussi, qui est beaucoup plus proche de nous. Alors donc, les gisants, il y a Louis-Philippe et son épouse Marie-Amélie. Alors Louis-Philippe, il faut savoir qu'il est parti se réfugier en Grande-Bretagne.
Oui.
Son corps a été rapatrié.
Exactement. Une grosse partie de la famille est partie en Angleterre. Ils sont décédés là-bas et leurs corps ont été rapatriés par la suite dans la chapelle royale. Entre les années 70 et 80, ils ont été rapatriés ici.
Louis-Philippe et son épouse Marie-Amélie.
Voilà. Alors, ils ont eu 10 enfants. Ah oui, il a honoré sa femme, comme on dit. Donc, il a eu 10 enfants et ils ont tous eu des enfants. Donc, il y a les enfants du couple royal, les petits-enfants, la branche brésilienne, tout le monde y est, sauf une personne.
C'est la princesse de Lamballe.
C'est la princesse de Lamballe,
ouais, forcément,
bien sûr.
Parce qu'elle a été guillotinée, décapitée, plus précisément, et son corps a été jeté avec de la chaux dans les fosses communes parisiennes.
Et son beau-père, le duc de Penthièvre, à la mort de sa belle-fille, eh bien, a envoyé son valet pour essayer de trouver le corps de la demoiselle afin de l'emmener à Dreux, mais on ne l'a jamais retrouvé.
On fait une pause et on se retrouve dans quelques instants.
Nous voilà de retour pour la chapelle royale de Dreux. Nous allons parler maintenant de quelques-uns des gisants qui se trouvent dans la chapelle royale, des gisants absolument splendides.
Rappelle ce que sont les gisants.
Un gisant, c'est une sculpture d'un défunt qu'on va poser sur le cercueil du dit défunt.
Et c'est vrai qu'il y a ces sculptures qui sont d'un détail, on a l'impression qu'ils sont réels presque.
Oui, c'est ça. La majorité ont été réalisées par Pradier, quelques-uns par Millet, Mercier, par exemple. Et on a des grandes personnalités. Donc, bien sûr, on a le couple royal. On a Louis-Philippe debout en majesté, sa femme à côté, Marie-Amélie en orante. Et on a à côté d'eux leur premier fils, le fils aîné, Ferdinand-Philippe d'Orléans. Alors, ce qui est drôle, c'est que Enfin, drôle, façon de parler.
Pour eux, moins. Hein.
Pour eux, moins, mais pour nous, amusant, on va dire. À côté de Ferdinand Philippe, vous avez son épouse. Elle s'appelait Hélène de... Alors, je suis désolée pour la prononciation, donc faut pas m'en vouloir.
Mecklenburg-Schwerin.
Elle est enterrée à côté de son époux, mais dans une châsse à part, les yeux tournés vers son époux, la main qui passe et qui va presque toucher son époux. Pourquoi ? Elle était de religion réformée. Et bien, comme elle est de religion réformée, là, nous sommes dans une chapelle qui est catholique, et bien, elle a le regard et la main tournés vers le catholicisme, vers son époux, qui est catholique.
Qui lui adresse le bon chemin et la bonne croyance.
C'est ça.
D'accord.
Nous avons aussi d'autres personnages. Savais-tu que il y a dans la famille des Orléans une artiste ?
Non, point.
Cette artiste s'appelle Marie d'Orléans. C'est l'une des filles de Louis-Philippe. Elle était artiste de talent, sculptrice. Et dans la chapelle...
C'était rare à l'époque pour une femme, hein, bien sûr.
Et dans la chapelle, au-dessus de son gisant, il y a un ange, l'ange de la résignation, qui a été sculpté par elle-même. Et à côté d'elle, eh bien, une petite statue de Jeanne d'Arc et un couteau, plutôt un ciseau. Ce que les artistes utilisent
pour sculpter.
Voilà. Il y a ça. Et on va remarquer que la majorité des gisants vont avoir un objet qui va définir leur vie. On a l'un des membres de la famille qui est décédé à Saïgon au cours d'un voyage d'exploration. Il est mort en 1901. C'est Henri d'Orléans et il est représenté donc avec une carte, avec la main posée sur une carte géographique. Et puis, tout le monde connaît Sissi.
Sissi, l'impératrice.
L'impératrice. Eh bien, sa sœur a épousé un Orléans. Elle repose à Dreux. Elle s'appelle Sophie Charlotte de Bavière. Elle est décédée lors de l'incendie du bazar de la Charité en 1897 à Paris.
Voilà,
exactement.
Grands...
Et donc, il y a plein de personnages comme ça. Il y a même des enfants, parce que le couple royal a eu aussi des enfants qui sont morts en bas âge.
En bas âge, oui, voilà. C'était très fréquent.
Leurs petits-enfants aussi. Il y en a un qu'on appelle l'enfant voilé, qui est absolument... magnifique en tant que réalisation artistique. C'est vraiment des choses à voir et à découvrir.
Les touristes sont fort nombreux tous les ans à venir voir cette chapelle royale dans une ville qui, on en parlera dans une autre émission, est un petit côté un peu austère, hein, en dehors de cette chapelle. Mais bon, elle est en train de changer.
Elle est en train de changer. Puis quand on connaît pas la ville, il faut savoir, la ville de Dreux, on aime ou on n'aime pas, mais historiquement parlant, c'est extraordinaire.
On va terminer cette émission avec une anecdote historique.
Alors, deux petites anecdotes, si je puis me permettre. Louise-Marie Adélaïde de Bourbon, la mère de Louis-Philippe et la princesse douairière, avait un amant. Et cet amant, devine où il est ?
À la chapelle royale.
C'est vrai.
Oui, c'était un haut personnage, non ?
Un haut personnage, je ne saurais dire. Mais en tout cas, il repose, il n'a pas de gisant, on le voit pas. On voit juste une plaque, mais il est vraiment présent.
C'est assez surprenant qu'il y ait son amant qui a sa sépulture à la chapelle royale. Mais il faut dire que la plupart des mariages qu'il y avait à l'époque dans les grandes familles, c'était des mariages arrangés, des mariages pour perpétuer la branche dynastique et pour assurer... C'était un positionnement politique, pas sur les sentiments.
Pour beaucoup, pas tous, hein, parce que forcément, il y a aussi des mariages d'amour. Hein. Comte de Toulouse a vraiment honoré sa femme, enfin vraiment amoureux de sa femme.
Oui.
Après, oui, il y a toujours des relations comme ça, oui, bien sûr.
Et c'était la première anecdote. La seconde ?
La seconde anecdote, ça se passe le 15 août 1944, lors de la libération de la ville par les Américains, où des obus allemands ont endommagé le déambulatoire. Ils ont détruit...
Le déambulatoire, c'est quoi ?
Alors, le déambulatoire, c'est quand tu as une église, eh bien, c'est les côtés. Et donc, du coup... Ils ont détruit donc le déambulatoire et puis les vitraux ont été abîmés. Par la suite, il faut noter aussi que Henri d'Orléans, comte de Paris, décédé en 1999, c'est lui qui a créé en 1972 la Fondation Saint-Louis, reconnue d'utilité publique 2 ans plus tard, qui gère la chapelle royale.
Ouais, voilà, d'accord. Pour l'anecdote, le comte de Paris, qui était en discussion régulière avec le général de Gaulle, pour éventuellement savoir comment il pouvait récupérer la couronne de France. Mais ça n'a jamais abouti.
Il y a cru.
Il y a cru.
Eh bien, écoutez, c'était une petite aperçue de la chapelle royale. Encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Donc, je vous invite à vous y rendre. Puis, à bientôt. Au revoir.